Donc, le débat va se dérouler de la manière suivante. Nous allons faire donc circuler le micro en salle. Je vais demander à celles et à ceux qui voudraient parler d'abord de se présenter, et puis ou bien de poser une question ou de faire une observation, une petite remarque, mais qui se limite au maximum à 2 minutes. Sinon, c'est inégal pour tout le monde et on n'en sort pas. Et on termine à 12h30. Donc, le débat est ouvert et le micro va circuler en salle. Le général Bache.
Juste deux petites questions. Effectivement, je pense qu'un problème important est ce problème des officiers de complément. Il faut bien comprendre, c'est une guerre de nations. Ça n'a plus rien à voir avec les combats d'avant. Les officiers en début de guerre, c'est 35 000 officiers, et toute la guerre, c'est 200 000. Les autres, ce sont des réalisés, c'est la nation, ce sont ceux qui savent lire et écrire, ceux qui ont été à l'école. Quand vous avez un officier, vous pouvez dire que derrière, il y a 300 officiers, ça veut dire donc 600 000 à 800 000. Imaginez par rapport à nos jours, c'est pratiquement la partie lettrée, celle qui restait le plus à l'école, qui a été confrontée au problème de l'obéissance et de faire obéir les gens qui sont en dessous. Et il faut voir que certainement, beaucoup de gens ne sont pas vantés d'avoir été officiers, mais quand je prends le cas de l'armée Gérard qui est en Lorraine, il y a un officier qui s'occupe du service de renseignement, il est commandant, vous savez comment il s'appelle, Paul Boncourt. Il a fait 4 ans comme chef du service de renseignement et de la censure postale. Donc il faut bien imaginer que certains hommes politiques ont choisi délibérément dans leur poste d'être auprès des grands généraux. Auprès des généraux, vous trouvez donc des hommes politiques. Mais ils sont capitaines, ils sont lieutenants. Donc, si vous voulez, le continuum existe, voilà. Ça, c'était la première mesure. Le problème des minorités polonaises ou... Je ne suis pas tout à fait sûr. Ce qui est étonnant pour les Français, c'est que lorsqu'ils dialoguent dans les échanges avec les Allemands, lorsqu'il y a des contrôles, la réponse des Allemands, nous, attention, on est Essois, nous, on est Badois, nous, on est, attention, il y a des Prussiens qui arrivent. Donc, il ne faut pas considérer la France telle qu'elle a été avec toute la partie psychologique. Du côté allemand, on est encore dans une société qui n'est pas aussi claire que cela. Donc, je n'ai pas trop senti les minorités polonaises ou alsaciennes. Lorsque les transfuges allemands passent, ils ne sont pas fatalement je vois ça directement. Notamment, j'ai remarqué en 18 une consigne de la presse, de la censure, disant « ne dites pas qu'actuellement les Allemands sont en train de passer de notre côté par groupe, de manière qu'on garde l'information ». Voilà une idée. Donc, et là, on est au mois d'octobre. Voilà deux petits exemples. J'ai dépassé, je suis désolé.
Merci. On pourrait peut-être ajouter que pour ceux qui sont les essentiellement sur le
front. Il faut savoir que du côté français, les Alsaciens ne sont pas au front, ils sont en Afrique du Nord. En
particulier parce que... Oui, bonjour Nicolas Enstadt. Juste une petite question pour Paul et pour Antoine sur Verdun. Moi, j'ai une vraie question sur la question de la ténacité et de la discipline à Verdun. Je me demande si l'idée de Verdun comme une bataille spécifique, ce n'est pas une construction après coup qui est lié à tout ce que vous avez montré, et qui s'est imposé aux soldats eux-mêmes à leurs dépens. C'est-à-dire qu'on leur a tellement imposé que Verdun, c'était la bataille, qu'eux-mêmes l'ont intégré, et même quand ils ont vécu le chemin des dames, la Somme ou ailleurs, ils disent toujours qu'ils ont plus souffert à Verdun. Et je me demande si ce n'est pas une construction mémorielle qui s'est imposée à eux dans cette ténacité. Donc ça, c'est une question pour Paul et Antoine. L'autre point, extrêmement vite, c'est sur la question des minorités nationales. Je pense qu'effectivement, ça, c'est un chantier entier, y compris dans l'armée française, parce qu'à tout voir du prisme central, je pense qu'on oublie que les questions de la discipline, elles se posent véritablement en fonction, évidemment, de questions de classe sociale, d'identité politique, mais aussi de questions nationales. On le voit très bien dans tous les témoignages, par exemple, les Basques ou les Corses n'ont pas le même rapport à la discipline, en fonction d'autres données que ça, mais celle-là, c'est une véritable donnée. Donc il me semble que sur la question des minorités nationales et de l'indiscipline, il y a un vrai chantier, qui a d'ailleurs été travaillé pour la Grande-Bretagne, on a oublié son travail, peut-être c'est dommage qu'il ne soit pas là, c'est Jerry Oram, qui avait montré que la discipline était beaucoup plus dure dans l'armée britannique quand elle touchait les non-anglais, en particulier les Irlandais. Donc ça, je pense que c'est un vrai chantier dans la question de la discipline, que des pressions qui vont s'exercer sur les minorités nationales ou de leur réaction à la discipline, y compris dans l'armée française. Voilà, merci.
Oui, moi c'est pour aller un peu dans le même sens que Nicolas, mais en prenant un autre thème et rebondir sur les questions qui ont été posées de façon un peu générale. On pourrait prendre beaucoup de facteurs justement qui contribuent à ces phénomènes d'obéissance et de désobéissance. Et moi, il y en a un, on a évoqué la nationalité, on a évoqué la, toute une série de phénomènes. Moi, il y en a que je voudrais évoquer et qui reviendra peut-être un peu cet après-midi, mais qui me paraît une question essentielle. Dans la figure de l'obéissance, un peu sur la longue durée, il y a l'âge. Il y a l'âge, une justification de l'autorité par l'âge. Donc, alors ça peut se faire dans à beaucoup d'endroits, hein, ça peut être dans un corps même de métier. Moi, quand j'étais jeune assistant, puisqu'on raconte ce qui nous arrivait, j'étais accueilli par un professeur d'université qui dirigeait, à cette époque, c'était déjà une UFR d'histoire à la Sorbonne, et qui me dit, Robert, entre vous et moi, il n'y a qu'une différence d'âge. Donc évidemment, il me gratifiait symboliquement, mais à partir de là, évidemment, j'étais tenu clairement de dire qu'il était mon chef par ce seul fait. Donc j'étais dans le même milieu que lui, par ce qu'il me déclarait, mais en même temps, il est clair qu'il m'avait signifié la différence dans un même monde intellectuel qui faisait qu'il avait autorité sur moi et qu'il me donnait pour moi mon service, et puis c'était comme ça. Hein, j'allais faire ça, ça et ça, ce dogme et pas autre chose. Et donc cette légitimité fonctionne dans beaucoup d'endroits, la légitimité par l'âge, y compris dans la famille, y compris, c'est un des points stratégiques. Il y en a d'autres, hein, dans les facteurs de domination. Je ne voudrais surtout pas que ce que je dis soit le point phare de notre réflexion. Mais ça n'a pas été évoqué. Il me semble que c'est un point clé. Et puisqu'il s'agit de réfléchir sur obéir et désobéir en guerre, c'est en quoi, en guerre, ce facteur de légitimation d'une autorité, d'une obéissance ou d'une désobéissance, l'élève qui ne, celui qui parle à table quand il n'y a pas le droit, etc., se modifie. Hein, donc, moi, il me semble que là, il y a quelque chose d'assez important, y compris dans le fait que si on regarde ceux qui combattent, ceux qui sont en toute première ligne et qui meurent le plus, il y a des facteurs démographiques. Toutes les courbes qui ont été établies sur les combattants morts, et on va en produire prochainement une systématique sur les morts parisiens, indique que ce facteur est extrêmement important. Donc il y a une question du jeune combattant dans les questions de l'équité. Y compris, alors avec des redéfinitions, puis j'arrête tout de suite, justement on vient d'évoquer ces questions de lieutenant, le lieutenant qui est jeune, qui va commander des plus âgés. Donc il y a toute une série, chose aussi qu'on voit ailleurs, hein, qu'en temps de guerre, avec le jeune, l'ingénieur jeune qui va avoir à commander des ouvriers plus âgés. Donc tout n'est pas non plus reconfiguré en temps de guerre. Enfin moi je pense que c'est une question, la question démographique, la question des sacrifices des jeunes. Alors, on n'avait pas évoqué la question de la domination sexuée, hein, bah, ce serait aussi complexe à élaborer dans le questionnement qui est le nôtre aujourd'hui, et on n'a pas le temps d'y revenir. Mais on pourrait aussi reprendre ce sujet-là. Donc moi, je pense qu'il faut examiner les critères de l'obéissance et de la désobéissance avant la guerre, et en quoi il se reconfigure pour les différents groupes dans ce contexte inédit.
Je pense que si je peux ajouter une question, juste deux mots là-dessus. Je pense qu'on peut aller même plus loin en disant qu'il y a
ce phénomène général en 1914, c'est-à-dire des établissements militaires qui ont leur propre conception de la discipline, une armée, même quand c'est une armée de conscrits, encadrée par les professionnels. L'armée du temps de guerre est totalement différente, parce que c'est toute la question des réserves. Et pour les Britanniques, c'est encore plus complexe, parce que là, il faut faire une armée de masse, d'abord à partir de volontaires, et puis par la conscription. Donc, et on sait à quel point les officiers, les états généraux, avant la guerre, craignaient ou avaient peur, ou du moins avaient des réticences par rapport aux réservistes. C'est tout le débat sur la loi des 3 ans en France. Donc, en quelque sorte, les armées qu'on voit en 14-15 sont des armées en voie de composition. Et d'où le limogeage, mais aussi d'où la négociation de toute une série de choses, des réactions extrêmement violentes, mais il me semble que c'est pendant cette année de 14-15, ou peut-être 15-16 dans le cas italien, qu'on construit de nouveaux systèmes de domination là-dedans, avec toute la possibilité, par exemple, des hiérarchies informelles. Donc l'âge, l'homme, parce que au début, évidemment, les territoriaux ne devaient pas partir au front, mais très vite, décembre 1914, les territoires, même des réservistes de l'armée territoriale se trouvent sur le front. Donc un homme, père de famille, on ajoute donc l'élément du genre, toutes les différentes masculinités. Donc l'homme qui est père de famille, 40 ans, 43 ans, Henri Barbusse en l'occurrence, qui se trouve sur le front, confronté à des systèmes disciplinaires qui ne respectent pas toute la complexité de son identité masculine dans la vie civile, évidemment, ça crée des tensions. Donc, moi, j'ai l'impression qu'en même temps, il y a l'évolution du système formel à travers la guerre, mais aussi la renégociation et la légitimisation en fonction de cette composition d'une armée de masse en temps de guerre, de la discipline. Voilà.
Oui, non, Jean-Louis Robert a raison d'attirer l'attention sur le rôle d'âge. Et c'est vrai que le fait de vieillir a beaucoup d'inconvénients, il est normal que ça ait en contrepartie quelques avantages. Mais il y a une légitimité d'ancienneté qui tient à la guerre et qui est propre, c'est la légitimité de celui qui est au front depuis longtemps. Et une anecdote que j'aime beaucoup, que je ne résiste pas au plaisir de vous faire partager, ça se passe en 1916 et c'est au front, juste avant une attaque, et un jeune officier frais sorti de Saint-Cyr prend le commandement de sa section, et la réunit dans la parallèle de départ et lui fait un topo patriotique. Et puis il s'est coupé la parole par un ancien qui est là depuis le début, un simple soldat, qui lui dit « ça va, bleusaille, ferme ta gueule et commande ». Je trouve ça absolument merveilleux. « Ça va, bleusaille, ferme ta gueule et commande. » Et vous avez au bénéfice, alors non plus du rapport d'âge, mais du rapport d'ancienneté au front, et puis de la situation, on n'en a rien à foutre de tes discours, tu commandes, tu fais ton boulot. Donc c'est pas un refus d'obéissance, mais on voit très bien comment le rapport d'autorité se trouve tout d'un coup subverti par l'ancienneté au combat.
Merci d'autres...
Elle est visible en plus parce qu'il y a les brisques d'ancienneté qui sont cousues sur les manches, et donc c'est pour l'unité, c'est visible, et c'est d'ailleurs un symbole qui est très concurrentiel par rapport au grade, quoi, les chevrons de présence. Voilà, c'était juste.
Ça se voit aussi par la tenue, hein. Sur le même sujet très vite. Sans avoir fait de statistiques, c'est quand même à vue de nez, les lettres qu'on a émanent de gens plus âgés. Alors à la fois parce qu'il est question du rappel des vieilles classes et des choses comme ça, mais aussi je pense parce que les jeunes n'ont pas l'habitude de la vie politique et démocratique. Donc je crois que c'est assez normal qu'on ait, s'adressant au Parlement, des gens qui ont eu l'habitude du vote, etc., et pas les jeunes.
J'en profite tant que le micro est à proximité. Mais j'étais très sensible à ce qui a été dit sur justement le croisement des facteurs à prendre en compte avec, j'ajouterais aussi le facteur urbain-rural qui moi me semble tout à fait essentiel, c'est-à-dire que par exemple pour la question de l'attachement à la nation, on voit très bien que le patriotisme dans les campagnes est tout à fait différent de ce qui se passe en milieu urbain. C'est-à-dire que, par exemple, dans mes déserteurs à l'ennemi, typiquement, il y a un bon tiers qui est agriculteur, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est de voir, à mon avis, le fait d'entrecroiser les facteurs d'analyse permet de dépasser les clichés de l'époque. C'est-à-dire que, typiquement, dans l'armée allemande en 14-18, on se méfie des Polonais, des Alsaciens et des Juifs. Bon, dans l'armée belge, on se méfie des Flamands, je caricature. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, au-delà de ça, ce sont pas les Flamands qui vont mal se comporter, ce sont une certaine catégorie de Flamands, c'est-à-dire les milieux les plus populaires qui sont doublement marginalisés. Une marginalisation par la langue, on en a parlé, mais aussi une marginalisation par un manque, une non-instruction qui les cantonne dans les postes les plus périlleux. Donc je pense que ça permet d'aller au-delà des soupçons de l'époque. C'est ce que je voulais dire.
Bon, merci. Moi, je voudrais répondre, enfin, poser une question à Emmanuel. Il m'a dit de ne pas Molière, donc j'en profite. C'est à propos de son tableau. Il a produit un tableau avec très intéressant, à partir d'une cinquantaine de témoins, sur les menaces d'exécution au revolver. C'est bien ça? Et bon, il a montré à travers ce tableau que la plupart des menaces au revolver ont lieu en 14. Et qu'elles ont tendance quasiment à disparaître à la fin de la guerre. Bon, il me semble qu'il faut, alors je crois que c'est une piste effectivement à creuser, mais il faut absolument tenir compte du fait que certains témoins ne peuvent pas témoigner pour après 14 ou pour après 15, pour la simple raison qu'ils ne sont plus au front. C'est le cas notamment de Genevoix, on ne peut pas attendre de lui qu'il nous témoigne pour 1918. C'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'il faut aussi tenir compte du fait que les officiers de 14, ceux qui ont l'occasion de manier leur revolver, ne sont pas forcément encore en activité en 18. C'est-à-dire qu'il y a un profond renouvellement des cadres, on l'a dit à plusieurs reprises, et les officiers de 14 se comportent certainement pas comme ceux de 16, 17, 18, parce que d'abord, beaucoup viennent des rangs inférieurs, et viennent des sous-officiers ou même des hommes du rang. Et je pense que leur expérience d'hommes du rang et de sous-officiers, eh bien, produit un autre type de comportement, un autre rapport à l'autorité, à l'obéissance. Voilà.